9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour et bienvenue sur RMC, la radio RMC Story, la télé. Vous savez qu'à cette heure-ci, c'est le coup d'envoi des GG, des grandes gueules. Ça fait 20 ans que ça dure, les amis, les grandes gueules sont avec vous jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Moi, je suis en train de préparer mon sac. Il va faire beau, il va faire chaud, j'ai lunettes de soleil, maillot de bain, je suis prêt pour Marseille.
Oui, Marseille qui prépare l'arrivée du Belém et donc de la flamme olympique. Mercredi, nous y serons avec les GG, avec les grandes gueules. Vos GG seront en direct de 9h à midi du MUCEM, donc le beau musée, le magnifique musée de la cité phocéenne. On sera là-bas avec Mehdi Guézard, Didier Giraud, Joël Dagosséry.
Il paraît que le MUCEM, c'est le meilleur endroit pour voir l'arrivée du Belém. Dans le port de Marseille, 150 000 personnes attendues. Le président de la République sera sur place et les grandes gueules aussi.
Et puis nous aurons des invités, de super invités avec nous, comme par exemple David Douillet qui sera dans les GG. Donc 9h midi. Les grandes gueules, mercredi au MUCEM à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique. Je vous rappelle que RMC est la radio officielle de ces JO. Mehdi Guézard, Didier Giraud, Joël Dagosséry seront de la partie. Qu'on se le dise, du côté de Marseille. Qui est avec nous aujourd'hui dans nos studios parisiens? Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, est là. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Cache ta joie.
Mais non, mais c'est,
Il est emmerdé parce qu'il est cheminot, il est obligé de travailler aujourd'hui alors que c'est la semaine. C'est le viaduc de la mort.
Ah ouais, la semaine dernière, vous m'avez insulté pendant une heure avec Mehdi Guézard, c'est sûr. Ça, je risquais pas de vous oublier.
Zora Bitton est avec nous, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora.
Bonjour à tous.
Et puis Charles Consigny nous accompagne. Il est avocat. Bonjour maître Consigny.
Bonjour à tous.
De quoi va-t-il être question aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Marine Le Pen était l'invitée des RMC et BFM TV il y a quelques minutes. Elle se présente comme le vrai bouclier pour les électeurs qui aujourd'hui craignent pour l'immigration, craignent pour leur insécurité. Est-ce que Marine Le Pen et le Rassemblement National ont remplacé la droite, sont la vraie droite aujourd'hui? On en parlera tout à l'heure à 11h-20. On reviendra sur Éric Zemmour qui s'est fait chahuter à Ajaccio et qui du coup lui-même a tapé une femme. On parlera des ponts du mois de mai, de la France à l'arrêt. Mais notre premier sujet de discussion va concerner cette bénévole des Restos du Cœur, cette ex-bénévole des Restos du Cœur qui a eu le malheur d'être interrogée alors qu'elle sortait d'un meeting du Rassemblement National.
RMC, les grandes gueules.
Elle s'appelle Colombe. La vidéo est devenue, comme on dit, virale sur les réseaux sociaux. Elle avait assisté le 1er mai à un meeting de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Elle faisait part de son désespoir, de sa situation précaire. Elle est devenue bénévole au Restos du Cœur. Mais au nom de la neutralité politique, les Restos du Cœur l'ont virée. Voilà ce qu'en disait Marine Le Pen ce matin.
Je lui dis de tenir bon, on arrive. Voilà ce que je dis à Colombe et à toutes les Colombes de France.
Dans
je dis aux Restos du Cœur qui devraient avoir honte de leur comportement. Parce que pousser à la démission une femme pour avoir simplement exprimé le désarroi qui est celui de millions de Français, alors que sans travail, elle donne de son temps et elle donne de son cœur à ceux qui ont encore moins qu'elle. Eh bien, la pousser à la démission, c'est vraiment une attitude mais qui devrait évidemment indigner tous les Français.
Mais Marine Le Pen...
Voilà, on devrait s'indigner, c'est ce que dit Marine Le Pen, du sort qui a été réservé à Colombe.
Mais c'est vrai que cette Colombe, donc 60 ans, conseillère en réinsertion, actuellement sans emploi, elle touche le RSA, cette Colombe avait beaucoup ému sur les réseaux sociaux et beaucoup ému des élus de gauche. François Ruffin avait dit que des Colombes, il en rencontrait par centaines de milliers en France et que c'était à la gauche de reconquérir les cœurs de toutes les Colombes du pays. Voilà ce que le député insoumis avait écrit lorsqu'il avait pris connaissance de ce que disait Colombe dans cette vidéo qui est devenue rapidement virale parce qu'elle est à la sortie du meeting, elle a les larmes aux yeux, elle raconte son parcours, voilà ce qu'elle dit. On est dans un monde fou, on a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les menaces, on a les huissiers. Et à propos de Marine Marine Le Pen, elle explique donc face à la caméra, il n'y a qu'elle qui nous dit « suivez-moi, on va combattre ». Mais ses propos visiblement n'ont pas plu au Resto du Cœur, aux Colombes et bénévoles. Elle a donc été obligée de démissionner de ses fonctions qu'elle exerçait à Toreil, près de Canet-en-Roussillon, parce que, nous dit-on du côté des Restos du Cœur, un bénévole peut être candidat à une élection, mais ne doit pas se prévaloir des Restos du Cœur. Pour avoir ignoré ce principe, Colombe a donc été poussée dehors. Elle ne sera plus bénévole. Est-ce que c'est choquant ?
Oui, au nom de la neutralité politique est un principe non négociable, disent les Restos du Cœur. 32-16 pour en discuter avec les GG. On va voir ce qu'en disent nos grandes gueules. Bruno, Charles, Zora, qu'est-ce que tu en dis ?
En fait, il y a ceux qui sont sur le terrain, puis ceux qui sont dans les salons. En fait, c'est ça le problème des Français. C'est que ceux qui sont sur le terrain ont une vision de la réalité totalement différente de ceux qui sont dans les salons, qui finalement développent des idées et des opinions qui n'ont rien à voir avec ce que vivent les gens. Donc la première chose, évidemment, c'est que moi je me réjouis de voir que Colombe a ému au-delà des chapelles partisanes, parce que c'est d'abord, elle a symbolisé cette France qui souffre, cette France des gilets jaunes, cette France qui n'arrive pas à payer ses factures, cette France qui vit des minima sociaux, qu'elle soit de la ruralité ou des quartiers populaires, eh ben c'est une France qu'il faut entendre. Maintenant sur la question de son investissement, en tout cas de son implication dans les Restos du Cœur. Alors je sais pas s'ils appliquent la règle pour tous les bénévoles, mais je pense.
Ce que tu veux dire, c'est que si elle était sortie d'un meeting de la France Insoumise et qu'elle l'avait dit,
je parle des Restos du Cœur.
Est-ce qu'on lui aurait réservé le même sort ?
C'est une question. Je suis pas convaincu. La question qui serait intéressante à poser aux Restos du Cœur, c'est que je m'imagine que dans les bénévoles qu'ils ont, ils doivent avoir énormément de gens impliqués, des conseillers municipaux, enfin des gens. Et c'est normal, c'est la vie citoyenne. Et cette dame a tout à son honneur, donne du temps.
Visiblement, si l'on en croit la charte, t'as le droit d'être militant, mais il faut pas le dire, quoi.
Voilà. En gros, c'est un peu surprenant. Oui. C'est un peu surprenant, mais ce que je note, c'est que les Restos du Cœur se sont exprimés.
Ils mentent quand ils parlent de la neutralité politique qui est non négociable, alors.
Oui, ils disent qu'on a le droit d'être. Il y a plein d'élus qui sont.
Oui, c'est ce que je dis.
Il y a plein d'élus locaux qui sont Restos du Cœur.
Voilà.
Moi, je veux bien, c'est bizarre d'ailleurs de virer un bénévole parce qu'ils en ont besoin des bénévoles. C'est déjà.
Mais oui.
L'idée même de virer un bénévole.
Non, mais le pire, c'est que les Restos du Cœur auraient dû déjà, j'allais dire, s'émouvoir du discours de cette dame, et s'honorer de dire cette dame dans cette situation-là en plus est bénévole chez nous. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec les opinions qu'elle défend, en tout cas l'endroit où elle est. Mais par contre, vous voyez, nous au Resto du Cœur, on a des gens qui sont au RSA et qui pourtant sont bénévoles chez nous.
C'était d'ailleurs le principe édicté par Coluche.
Et c'est hallucinant.
Il n'y avait pas de clivage politique.
C'est ça qui est incroyable.
Charles, maître consigné.
Bah, d'abord, je n'ai pas vu, mais ça m'a sans doute échappé le moment où elle se revendiquerait des Restos du Cœur. C'est peut-être un autre moment dans son interview, je sais pas. En tout cas, dans l'interview, dans l'extrait que tout le monde a vu, on n'entend pas qu'elle est dans les Restos du Cœur. Donc je pense qu'il y a quand même un peu un délit de RN dans l'histoire, faut être clair.
Un délit sale.
Je pense que les Restos du Cœur, c'est plutôt un truc de gauche, et tout à coup, ça les met mal à l'aise d'avoir quelqu'un qui vote Marine Le Pen dans leur rang. Ensuite, moi, j'observe quand même en France un mélange de misérabilisme et de cynisme un peu incroyable à l'égard de cette Colombe, quand je vois le tweet de François Ruffin ou même Marine Le Pen qui dit courage, on arrive, etc. Moi, si j'étais responsable politique, une dame qui a 60 ans, qui est conseillère en réinsertion et qui trouve pas de boulot, je lui suggère quand même d'essayer de trouver un autre boulot. C'est marrant. C'est marrant comme c'est devenu. C'est interdit de dire ça en France. Je veux dire, il y a des jobs dans tous les domaines. Il y a plein de boulots que vous pouvez faire à 60 ans. Ce ne sera pas forcément le boulot que vous avez fait pendant votre vie, etc. Vous ne serez pas forcément conseillère en réinsertion, mais vous trouverez un autre job, comme il y en a dans plein de domaines qui en proposent. Et ça, par contre, il n'y a aucun responsable politique qui ose dire ça. Tout le monde verse des larmes de crocodile, Ruffin, etc. Je ne vois pas en quoi le programme de Ruffin va améliorer en quoi que ce soit la situation de quelqu'un de 60 ans au RSA. Je pense que ça va plutôt l'aggraver.
Quand t'as 60 ans, c'est plus dur de trouver un emploi que quand t'as 25 ans, quand même.
Oui, mais il y a plein de boulots dans lesquels on cherche des gens. Je veux dire, pour s'occuper des personnes âgées, on cherche des gens.
Toi-même, c'est compliqué.
Pardon ?
Quand tu as 60 ans, t'occuper d'une personne, la lever, la nettoyer, faire des choses comme ça, c'est pas possible. C'est
pour ça que les aides-soignants, on cherche des gens pour faire la cuisine, on cherche des gens pour plein de trucs. Je veux dire.
Comme c'est une femme, Charles, tu l'envoies à la cuisine ou t'occuper des petites vieilles ?
Bon, non, mais voilà, mais c'est ça le problème. Voilà, mais t'as raison, on cherche des gens dans l'armée de terre.
Et ben voilà, ben pourquoi pas.
Non, mais t'as raison, elle devrait taper à la porte. Bien sûr, on cherche des agents de sécurité pour les boîtes de nuit. Mais non, mais je veux dire, faut arrêter d'être con quand même dans ce pays. Et arrêter d'être démago tout le temps et misérabiliste. Je suis désolé, il faut. C'est comme quand les gens vous disent ah oui non mais dans ma région il y a pas de travail. Ah non, il y a pas d'emploi, etc. Bah change de région.
Mais si, je suis désolé.
Vends ta maison 120 000 euros
et tu te retrouves à la rue en région parisienne.
Tu déplaces tes gosses, tu vas là où il y a du travail, comme ça c'est toujours fait et comme font d'ailleurs des tas
comme
de gens.
Charles l'a fait. Charles a quitté le 5e pour aller dans le 7e. Et c'est vrai que ça fait quand même un sacré voyage. Quoi.
Bah, à Paris, il y a du boulot pour les avocats. Du coup, je suis pas avocat Brive-la-Gaillarde.
Mais tu pourrais.
Mais ça m'amuserait plus, figure-toi, d'être avocat dans un endroit charmant. À la campagne et tout, sauf que je gagnerais pas ma vie. Donc oui, je suis avocat en région parisienne parce que c'est là que sont les beaux dossiers. Mais donc je veux dire, oui, j'assume de dire que il faut aussi à un moment donné mettre des mots sur les choses. Et je constate que c'est un truc qui a pas du tout été dit dans notre pays misérabiliste où tout ce qu'on sait faire, c'est verser un RSA à Colombe et faire des tweets avec des larmes de crocodile.
Bruno.
Moi, je suis d'accord.
Ils ont eu raison de la sortir.
Non, et moi, je suis d'accord avec François. Moi, je pense qu'il faut parler avec ces personnes qui sont dans la galère et qui, en plus, en étant dans la galère, aident les autres. Donc, je comprends pas pourquoi le Resto du Cœur la sort. Après, moi, je fais partie de ces gens qui, depuis 40 ans, ont diabolisé le Front National, ont tout fait, soi-disant, pour l'empêcher de parler. Ça les a montés à 40%, voire même à 51%, peut-être, dans 3 ans. Je pense qu'il faut plutôt aller parler à des gens comme Colombe, lui expliquer que, bah, c'est peut-être pas eux qui ont la solution, mais peut-être que d'autres ont la solution, peut-être que d'autres peuvent l'aider plus, au lieu de se servir d'elle pour en faire une espèce d'exemple. Et je pense que Ruffin là-dessus a raison. Et moi, je trouve que les Restos du Cœur ont mal agi parce qu'en fait, ils ont une bénévole, bah, déjà qui la garde, parce qu'ils en ont besoin. Mmh. Et puis, Pascal au Front National, enfin, les partis en Rassemblement du Rennes, mais cette dame, elle sert toute la journée des gens qui sont dans la misère comme elle et qui souffrent souvent de la mixité sociale. Et j'ai pas l'impression que quand t'es raciste, profondément, tu vas servir des gens qui sont d'une autre couleur ou d'une autre religion, parce que c'est ça le racisme. Je pense pas que Colombe le soit, mais je pense plutôt que Colombe, en fait, elle, ce qu'elle voit, c'est que des gens comme elle et même des gens plus jeunes sont dans la galère et que personne parle d'eux.
En tous les cas, on a pété un plafond de verre depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens de gauche arrivent à dire qu'il faut, un, parler avec les électeurs du RN, ce qui n'existait pas avant, moi qui fais de la politique depuis des années. C'était inconcevable de parler
avec quelqu'un. Bernard Tapie avait dit que c'était des salauds.
Ah ouais, mais je peux vous dire que là, on a pété le plafond de verre et vraiment violent, et moi je rigole, parce qu'il faut voir tout ce que j'ai écrit pendant des années et que je me suis fait traiter de facho et de traître. Je disais toujours que pour traiter les causes, il fallait parler avec ceux qui justement souffraient. La gauche a jamais voulu entendre parler. Deuxièmement, aujourd'hui, les gens qui votent RN, on est en train de leur dire, venez chez nous, c'est nous qui avons les solutions. On ne veut plus diaboliser le RN, on veut plutôt être dans la proposition de politique alternative. Vous voyez comment la gauche, prise dans les filets de tout ce qu'elle a fait pendant 40 ans pour que les Français se radicalisent, se mettent en colère et aillent en exode de masse au RN.
Parce qu'elle a peut-être abandonné ces gens-là.
Voilà, elle les a d'abord Terra Nova en 2012 et puis bien avant. Et aujourd'hui, on nous tient des discours. Oui, mais il faut parler avec les gens du RN, etc. Alors que ceux qui sont, qui expliquent la réalité, qui expliquent les causes et qui disent que c'est en nommant les causes, en traitant les causes,
Ils disent pas tout ça à gauche.
Oui, Ruffin
le dit.
Beaucoup.
Ruffin le dit beaucoup. Ruffin,
mais quand
dit,
on voit la réaction.
Je suis pas sûr que Raphaël Glucksmann ou Olivier Faure parlent aux électeurs du RN.
Eux, ils vont finir dans les poubelles. Voilà. Mais tous ceux qui ont pas compris.
Ruffin essaye d'avoir ce discours, en tout cas d'essayer de dire, ces gens.
Tous ceux qui n'ont pas compris que la vraie problématique, c'est la misère sociale qui va de la ruralité en passant par les villes jusque dans les quartiers populaires et c'est ce qui mine notre pays, et ben exploser.
Venez commenter ça avec les GG, venez réagir avec les grandes gueules. Vous avez entendu parler de cette histoire, Colombe qui a pris la parole devant les micros à l'issue d'un meeting de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Elle était bénévole au Resto du Cœur. Elle ne l'est plus, parce qu'au Resto du Cœur, au nom de la neutralité politique, on l'a reconnue, on lui dit « Désolé, tu as affiché les couleurs, mais tu ne peux plus rester chez nous ». Alors, le fait qu'elle ait été exclue, est-ce que vous trouvez ça honteux ? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules, avec Charles Consigné, Bruno Poncet, avec Zora Bitton. À tout de suite.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules avec vous sur RMC, RMC Story. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans les GG avec Zora Bitton, avec Bruno Poncet, avec Charles Consigny? On parle de cette bénévole des Restos du Cœur qui a été interrogée comme ça. En fait, on ne savait pas qu'elle était bénévole pour les Restos du Cœur. Mmh. Mais elle, c'est une femme qui est interrogée à la sortie d'un meeting de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. On sent qu'elle est dans la précarité. Derrière, on apprend qu'elle est bénévole au Resto du Cœur. Les Restos du Cœur l'ont sortie. Voilà, neutralité politique. Vous ne pouvez pas afficher les couleurs à la sortie d'un meeting du Rassemblement National et ensuite être au Resto du Cœur. Zou, dehors. Nathalie, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Très honorée d'être avec vous. Mais, je suis contente de vous avoir.
Vous nous appelez d'où, Nathalie ?
De Marseille. Avec
ah, on y est mercredi. Hein. On y est mercredi au Mucem avec les GG. Hein, pour
oui,
l'arrivée de la flamme.
Je vais essayer d'y aller pour voir le Bélème. Oui, quand même.
Voilà. Alors, mais Nathalie.
Il y a la pluie, alors j'espère qu'il fera beau mercredi.
Oui, a priori, ça tourne demain. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce qui est arrivé à Colombes ?
Très déçue, parce que franchement, bon, moi j'avais déjà des amis qui avaient été refoulés des Restos du Cœur aussi, parce que bon, apparemment, les revenus ne correspondaient pas, ou c'était la tête qui n'allait pas, mais bon, ils m'avaient raconté des histoires aussi comme ça. Donc j'ai été déjà un petit peu échaudée par cette histoire de Restos du Cœur, et donc je ne donne plus depuis cette affaire. Donc je n'ai pas attendu l'histoire de Colombes pour être déçue, mais ça confirme bien que bon, ben voilà, il y a de la dérive politique là aussi, donc je suis très déçue qu'une association se mêle de ça, quoi. Parce qu'elle doit aider les gens, quelle que soit la couleur politique. On s'en fout de savoir si on vote rouge, blanc ou vert. On s'en fout, quoi. Et puis, assister à un meeting, franchement, ça ne veut rien dire. Parce qu'en plus, elle ne savait même pas pour qui elle allait voter. Donc, moi, des fois, j'écoute à la radio des meetings. C'est pas pour ça que je vais voter pour la personne, quoi. Vous voyez, je pense qu'elle voulait juste écouter le discours, ce qu'il proposait, sans pour autant adhérer à un parti, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu trop facile d'exclure comme ça. C'était peut-être qu'ils avaient l'intention de la virer, que j'en trouvais ça, quoi.
Voilà. Vous pensez que si elle était sortie d'un meeting de Raphaël Glucksmann ou de la France Insoumise, alors on lui aurait réservé le même sort ?
Bah, pas du tout. Je pense que c'était parce que c'est le RN. On veut taper sur le RN, c'est tout. À ce moment, il monte. Donc, on cherche tout ce qu'il faut pour les. Regardez l'histoire avec Bardella, le journaliste qui s'est fait virer parce qu'il a parlé à Bardella. Bon, mais voilà, il n'y a même pas eu de projet de livre, il n'y a même pas eu de livre, il n'y a rien.
Jean-François Aquili.
Voilà, exactement.
Non, mais j'allais dire ce qui depuis des décennies fait à la fois monter le RN et à la fois grossir les rangs du RN, c'est précisément ça. Cette espèce de gauche qui pense bien, qui pense mieux que les autres et qui donne des leçons à tout le monde. Exactement. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils se remettent en cause, à aucun moment ils sont dans le débat, à aucun moment ils essayent de comprendre. En plus, la plupart du temps, les dirigeants politiques de gauche, on a connu la gauche caviar, elle est pas morte. Il y a eu la gauche apparatchik, elle est pas morte du tout. Ce sont des gens qui sont dans le déni de réalité, qui ont une idéologie bien précise et qui l'appliquent et qui demandent surtout à tout le monde, à tous ceux qui pensent pas comme eux, les artistes qui se mobilisent pour les Restos du Cœur, dont certains ont des positions politiques bien connues, et pourtant ils sont toujours affichés pour les Restos du Cœur et ils mènent toujours leurs concerts pour les Restos du Cœur. À aucun moment les Restos du Cœur ont dit nous ne voulons pas que cet artiste se produise pour les Restos du Cœur parce qu'on sait qu'il est à tel parti politique ou qu'il a pris telle position. Donc là, ça les gêne pas, les Restos du Cœur. Donc, il y a clairement de la part des Restos du Cœur, tout comme sur France Inter avec Jean-François Aquili à qui on a demandé de partir parce qu'il aurait soi-disant écrit ou sera en projet d'écriture. Donc vous voyez, c'est toujours la même histoire. À chaque fois que la gauche l'ouvre, c'est pire. En fait, à chaque fois qu'il donne des leçons, c'est pire.
Après, en même temps, Guillaume Meurice va peut-être aussi se faire virer. C'est un humoriste.
Mais l'indignation pour Guillaume Meurice, elle n'est pas la même que.
Pour vous dire que je vote quand même Marine Le Pen et qu'on a beau lui dire quelque chose, je voterai toujours pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et j'ai regardé
donc
sur
ça renforce vos convictions.
Mais totalement. Mais ils ont tout faux.
Merci Nathalie d'avoir été dans les jeux, dans les grandes gueules. Bruno Poncet.
Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais la première tournée des Enfoirés, c'était quand même Sardou, Johnny et tout ça. Donc c'est pas des mecs de gauche non plus.
C'était les copains de Coluche.
Ouais. Donc il y avait juste Goldman, je crois, qui était plus ou moins de gauche. Tous les autres.
Non, t'avais en fait la première tournée, t'as Sardou, Eddie Mitchell. Véronique Sanson, Coluche et je crois pas qu'il y a Johnny, non.
Non.
Je suis pas sûr. Enfin, c'est ça. Hein. Ils font une tournée ensemble. Ouais. Et parce que c'était les potes de Coluche.
Avant, on avait des copains.
Mais Coluche, pardon.
Que des copains.
Je pense que Coluche ne validerait pas ça parce que c'était quelqu'un qui était assez libre d'esprit et qui tapait d'ailleurs aussi bien sur la gauche que sur la droite.
Il avait dit, qu'on est la droite la plus bête du monde et la gauche la plus conne, donc forcément.
C'est
ça,
Marie
ça
qui veut.
Un beau dessin.
Marie qui veut en discuter avec nous aussi aujourd'hui. Marie, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous appelez de la Manche, du côté de Cherbourg. Qu'est-ce que vous en dites de ce qui est arrivé à Colombe, alors?
Ben, je trouve un peu injuste parce que, voilà, par rapport au concert qu'avaient donné les Enfoirés, donc, qui parlait par rapport au JO, donc tout ce qu'avait fait Hidalgo, tout ça. Donc, je dis, bon, ben, eux, ils ont le droit, mais une personne lambda n'a pas le droit, quoi. De dire, enfin. En l'occurrence, elle ne l'a même pas dit.
Non, elle ne l'a pas dit en plus.
C'est ça.
Dans l'interview.
C'est
ça. Non, elle sort du meeting et voilà. Elle affiche, en sortant du meeting dans l'interview, elle affiche sa sympathie pour ce qui est dit. Mais... Elle dit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'eux qui nous écoutent, qui nous entendent.
Elle était bénévole au Resto du Cœur.
Non, elle a été reconnue ensuite.
Elle a été reconnue.
Ah ouais, mais bon.
Voilà.
Ben oui, c'est ça.
Donc,
oui.
C'est ce que je dis. C'est... En fin de compte. Est-ce que les vérités dérangent ou je sais pas.
Ben surtout qu'en plus, quand elle est interviewée, elle arrive d'ailleurs la même surprise.
Elle parle d'elle, elle parle de sa vie.
Elle est surprise, elle s'attend pas à être interviewée à la sortie du meeting. Elle parle d'elle, effectivement, elle fait pas du prosélytisme. Non. Elle dit pas, je suis une militante, allez-y, etc. Donc elle raconte sa vie, elle est même assez émue pour expliquer pourquoi elle est là. Et puis, encore une fois, en France, on est libre d'aller voir des meetings. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un truc aujourd'hui. On a un problème avec la liberté d'expression.
Ah, parce
on a le droit d'aller dans un meeting. Enfin, aujourd'hui, il va falloir se cacher.
Et avec le militantisme politique, puisqu'il y a de plus en plus de structures qui proscrivent totalement, oulala, la filiation politique, vous êtes encarté, non, vous soutenez tel candidat, non. Il y a une espèce de paranoïa maintenant sur sur ça qui est terrible et qui réduit en plus le spectre de la politique elle-même. Il n'y a plus que des gens qui sont politiques professionnels ou militants professionnels qui se retrouvent dans les meetings ou qui se retrouvent.
Et on se plaint d'ailleurs qu'il y ait de moins en moins de citoyens qui s'engagent.
Mais oui.
Et on peut plus. Aujourd'hui, par exemple, dans une entreprise, quelqu'un qui afficherait, qui soutient tel ou tel candidat, il se prendrait sans doute une espèce de
t'as même pas besoin de l'afficher, t'es googlisé, on voit que t'étais avec tel candidat, on voit que t'étais investi quelque part à un moment donné, et ça y est. C'est-à-dire que même les employeurs, les entreprises, etc., on dissuade.
Il n'y a que chez McKinsey que c'était très autorisé.
Oui.
Ça, alors là, c'était.
Mais ce qui est incroyable, quand même, c'est que moi, je ne comprends pas. Si tu ne veux pas parler aux électeurs du Front National, mais pour quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu ne vas pas parler un Français sur deux, quasiment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de te mettre dans un coin et te dire moi, j'ai raison, les 50% c'est tous des cons, donc je n'en parle pas. Sauf qu'à un moment donné, on l'a vu, et on l'a vu pendant des années. Ça a fait le lit du Front National, ils sont victimisés. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui est d'extrême droite est dans les émissions de télé, et je citerai même pas des noms, tu vois le mec, dès que tu commences à... Non, on n'a pas besoin, on les connaît tous. Et dès que tu commences à notre entrée, il a juste à faire la victime. Mais regardez, j'ai pas le droit de parler, machin, et hop, c'est réglé. En fait, maintenant, c'est comme ça. Et tu vois, Bardella, il s'est fait retourner en tous les sens.
Oui, c'était assez intéressant. J'écoutais un peu le débat. Il y avait le débat hier, le premier débat, avec tous les candidats.
Ils font pas tous la même taille.
Chez nos concurrents.
Non.
Et déjà, c'était assez inaudible. Et puis surtout, comme Bardella est en tête, ils se sont tous finalement ligués contre lui. Ça n'avait, et je pense que ça lui profite.
Bah oui.
Déjà, ça le renforce dans sa position de leader. C'est-à-dire que les autres étaient les outsiders qui tentent désespérément tomber le leader.
Mais c'est un truc qui dure depuis des années, en fait. Il y a le RN, c'est le thermomètre. C'est-à-dire que tu parles toujours en fonction du RN. Tais-toi, tu fais le jeu du RN. Tais-toi, tu penses comme le RN. T'es facho. En fait, ça fait des années. Pourquoi ils font ça? Parce que eux-mêmes ont rien à proposer. Eux-mêmes sont totalement démunis face à la question sociale et à la question de la colère des gens. Et comme ils ont rien à proposer, ils diabolisent. Non, mais peu importe. C'est inaudible. Pour les lecteurs, pour les 50%, c'est inaudible.
Je vous mets au défi de.
Oui, mais on est d'accord.
Ce que propose le RN.
On en parlera tout à l'heure, ça, dans
une dame. Oui, mais c'est aussi inaudible pour eux.
Mais je remercie Marie d'avoir été avec nous. Marie, une chose, parce que vous avez 49 ans, c'est ça Marie, je donne votre âge parce que j'ai votre fiche sous les yeux. Vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis en ALD, affection longue durée.
Affection longue durée, d'accord. Donc sans profession aujourd'hui pour des raisons de santé, quoi, en fait, c'est
voilà,
ça. Et aujourd'hui, quand vous entendez Colombe dire que c'est compliqué de voilà, de retrouver du boulot quand on est au RSA, qu'on se sent un peu désocialisé. Ça, vous le comprenez, Marie?
Oui, je le comprends très très bien. Et justement, enfin, mise en aparté par rapport à ce qui a été mis en place par rapport à la déconjugalisation avec les conjoints.
Ah oui, c'est ça, de l'allocation handicapée, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance de ce côté-là également.
Marie, j'espère que ça ira bien dans les prochaines semaines pour vous. Je vous le souhaite. Bien. Merci dans tous les cas d'avoir été dans les GG, d'avoir été dans les grandes gueules. Tu vois, je regardais les petites réactions là qui arrivent sur les réseaux sociaux en même temps qu'on discute. Et bon nombre de personnes disent, même si on ne partage pas les idées de Marie, les idées de Colombe, pardon, c'est ce que m'écrit Yann, c'est ce qu'écrit Yann notamment sur Twitter. Disent qu'on a toujours l'impression qu'on a le camp du bien et le camp du mal. Il dit aujourd'hui, et il dit c'est ça qui est devenu insupportable.
Ça fait des années que ça dure.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à la difficulté de la personne, ni comment on peut continuer de lui tendre la main. Alors du côté des Restos du Cœur, on se défend. Et on dit non, c'est elle qui a voulu sortir des Restos du Cœur. Ouais, et du côté de Colombe, on dit non, il y a eu la pression d'une responsable associative locale du côté de Perpignan qui a poussé Colombe vers la sortie. Donc il y a aussi là encore une divergence dans ce qui s'est réellement passé. Mais voilà, Yann, il insiste sur le camp du bien, le camp du mal, Bruno.
Ouais, mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, à force de faire ça, ben non seulement tu rends le Front National plus audible et puis tu leur laisses des boulevards et puis en même temps moi je vote pas et j'arrête pas de le répéter mais moi j'ai jamais tout entré par la gauche. Ça a commencé avec Mitterrand. Enfin moi je rappelle toujours que Mariam El Khomri, elle était pas dans un gouvernement de Sarkozy, que Valls qu'il a voulu faire avec l'élection de la nationalité, c'est encore un gouvernement de gauche. Si tu vois tout ce qu'a fait en plus ce candidat de gauche qui t'expliquait que son ennemi c'était la finance et qui derrière leur allait chez les pompes. Enfin, à un moment donné, tu vois, donc arrêtons de penser. Et cette gauche-là, qui veut revenir aujourd'hui avec Glucksmann et tous ces gens-là, qui ont trahi la gauche et qui l'ont défoncé, hein, qui l'ont enterré, d'ailleurs quasiment vivante, faut qu'ils arrêtent de faire des leçons à tout le monde. Et je pense qu'un mec comme Ruffin, qui vient, lui, il sait d'où il vient, Ruffin. Moi, j'ai parlé plein de fois avec lui. Ruffin, Amiens, il est entendu par tout le monde.
En creux.
Et Ruffin, il va aller chercher les gens. Et d'ailleurs, Ruffin,
après,
quand il est élu.
Il a apporté des réponses.
Voilà, mais Ruffin a apporté des réponses. Quand Ruffin, il est élu au premier tour dans un endroit où le RN, quand même, faisait des énormes scores, ça veut quand même dire quelque chose.
Ouais, enfin, ça veut surtout dire que les gens s'accrochent à ce qui les plombe. Moi, je suis désolé, mais le programme de Ruffin, comme le programme de Marine Le Pen, je pense que ce sont des programmes d'inspiration socialiste qui ne font que enfoncer les gens qui sont déjà dans la merde. C'est leur proposer toujours plus d'assistanat, toujours plus d'entraves aux entreprises, toujours moins d'activités économiques. Et donc, Colombe, elle restera dans sa situation si le RN
problème, c'est la production
pouvoir,
de la richesse pour une redistribution, en fait. C'est ce que disait Strauss-Kahn. C'était, en fait, plus tu produis de richesse, plus tu es libéral, et plus tu as les moyens de redistribuer cette richesse. Si tu produis pas de richesse, tu vas distribuer quoi?
Le programme de gauche du RN sur le plan économique et social, pour moi, n'est pas un programme porteur de dynamisme économique.
On en parlera tout à l'heure dans le GG 7 et match, le Rassemblement National qui se veut la vraie droite, mais ce sera tout à l'heure à 10h40. Non pour Charles, oui pour Bruno,
de communisme,
Olivier, Isora, mais ça, le GG7 et match, c'est rendez-vous à 10h40. Colombe, la sympathisante, elle a assisté à un meeting RN, elle s'est retrouvée exclue des Restos du Cœur. Est-ce que c'est honteux, oui ou non? On a posé la question sur les réseaux sociaux. Ben, c'est un oui à plus de 88%. Voilà, le verdict est tombé à travers nos 20-25 minutes de discussion qu'on a eu dans les grandes gueules. Allez, dans un instant, avec Charles, avec Zora et avec Bruno, le on s'en fout pas. La France qui déroule le tapis rouge à Xi Jinping. La fin de l'émission, les chiffres et les lettres après un demi-siècle de diffusion. Et puis les révélations de la compagne de la femme de Kenji Girac. On s'en fout ou pas, tout de suite.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec tout à l'heure à 10h, on reparlera de cette semaine assez atypique. Parce que c'est quasiment une semaine de vacances, hein, vu que les enfants n'ont pas école
ça,
vendredi.
Ça arrivait souvent.
Est-ce que là, cette semaine de mai, c'est la France à l'arrêt? Dites-nous franchement si vous vous êtes arrangé pour avoir quasiment la semaine tranquillou. 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grands.
Les Français vont vivre ce que c'est que d'être à la CGT.
En attendant, parlons du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La France déroule le tapis rouge à Xi Jinping. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Zora,
on s'en fout pas.
Et Charles.
On ne s'en fout pas.
Visite de 48 heures pour le président chinois. Alors au programme, cérémonie protocolaire en grande pompe aux Invalides. Banquet à l'Elysée, ça c'est aujourd'hui. Demain, direction les Pyrénées pour Emmanuel Macron et Xi Jinping à l'occasion d'une escapade plus personnelle entre les deux hommes accompagnés de leur épouse. Alors évidemment, la guerre en Ukraine et la question des droits de l'homme seront abordées. Alors que la France, on le rappelle, dénonce le génocide du peuple ouïghour. Pourquoi on s'en fout pas, Bruno?
Tu viens de le dire, j'ai les Ouïghours, il y a aussi ce qui se passe au Tibet. Mais bon, après, c'est dans la galerie de portraits, Macron serrant la main au dictateur. Il y avait l'Iran, il y avait l'Arabie Saoudite. Il manquait, moi je pense qu'il doit y avoir Poutine aussi, mais il manquait juste.
On ne devrait pas le recevoir.
De toute façon, t'es obligé. Le mec qui nous détient, je sais pas, il détient combien de pourcents de la dette française. Donc à un moment donné, le pays lui appartient quasiment. Enfin, la plupart des gens achètent sur Amazon.
La France appartient à la Chine.
Ah, je pense qu'à mon avis, les gens se trouvent AliExpress très bien. Donc je pense que la Chine,
J'ai les chiffres. En 2023, notre pays a importé pour 72 milliards de produits made in China. Électronique, voiture, en revanche, elle a exporté pour 25 milliards. Donc quand même, on vend aux Chinois, mais on achète plus qu'on ne vend, bien sûr.
Made in China, oui. Charles?
Non, moi je pense qu'on doit montrer du respect, parce que c'est un grand partenaire, et qu'il ne faut pas les... Mais c'est vrai qu'il ne faut pas les vexer, et en même temps, on doit montrer ce qu'on a dans le bide.
Et en disant quoi?
La France, c'est quand même le pays qui défend les opprimés dans le monde. Donc typiquement, un pays qui a des camps de concentration... puisque c'est ça, les Ouïghours. La France, historiquement, on est quand même censé être un tout petit peu le pays qui a, parmi les premiers, édicté des déclarations de droits.
Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron?
Il y avait une époque où la voix de la France portait. Non, mais on doit gueuler sur la question des Ouïghours. On doit gueuler sur la question des droits des citoyens. Je veux dire, c'est un pays dans lequel, sous couvert de Covid, ils ont quand même foutu tout leur peuple en tôle pendant des mois et des mois. Et ça continue. Oui, mais ils ont fait
d'ailleurs,
bien pire.
Certains s'inspirent du modèle chinois
ils ont
en
fait,
France.
Ils ont fait bien pire que
y
nous.
Y
et moi,
qui citaient les
et moi j'ai
chinois,
critiqué en son temps, j'ai critiqué le fait que nous nous inspirions d'une dictature pour nos propres mesures Covid, mais ça dérangeait le pays. On n'avait pas le droit de toute façon de critiquer les mesures Covid.
Est-ce qu'on peut se passer de la deuxième puissance économique du monde ?
Non, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas s'en passer qu'on doit s'aplatir. Donc moi, je pense que la France gagnerait. Et je suis désolé, avant, c'était une question qui était tout le temps posée par les journalistes. Souvenez-vous, quand le président français et le président d'un autre pays, en général une dictature, puisqu'il y a plus de dictatures que de démocratie dans le monde, en général d'une dictature, faisait une conférence de presse, il y avait toujours un journaliste pour dire « Avez-vous évoqué la question des droits de l'homme ?» Et souvent, le président français disait « Oui, oui », et le président étranger disait « Non, non ». Bon, mais c'est souvent comme ça. Donc sous couvert de réel politique, on a abandonné ce qui fait notre singularité.
Je note que avec 1 million de Ouïghours en camp de détention, en camp d'internement, dans des conditions immondes, 110 journalistes emprisonnés, des Ouïghours, ils sont 10 millions, pour le reste, c'est quasiment l'apartheid organisé. Eh ben, la Sorbonne ne sera pas occupée aujourd'hui. Nos militants pro-palestiniens en ont rien à cirer. Et en 2022, LFI a voté contre la reconnaissance de ce que vivent les Ouïghours à l'Assemblée. Donc il y a un moment donné, il va falloir quand même s'interroger sur la question des droits de l'homme et la graduation que chacun en a. Voilà,
mais surtout,
exactement.
LFI et Zora, ils ont un problème avec la Chine, à mon avis, et avec ce régime qui est suspect. Moi, je considère que c'est suspect. J'ai entendu Rima Hassan sur la question. Je comprends pas pourquoi elle est tout à coup aussi timorée sur la question des Ouïghours alors qu'elle est sabre au clair sur la question de Gaza. Moi, je trouve ça suspect. Je pense que les liens sont suspects.
D'ailleurs, il y avait la fondatrice d'un institut européen sur les Ouïghours hier sur BFM TV qui s'est fendue d'un tweet assassin à l'égard de Rima Hassan en lui disant que c'était scandaleux, qu'elle était très en colère de voir comment Rima Hassan avait balayé d'un revers de main quasiment ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine. Donc effectivement, moi et il a raison, Charles, c'est que d'habitude quand un chef d'État arrive en France et que dans son pays
malheureusement je suis désolé, mais tout le monde se fiche
totalement
des Ouïghours en France. Ce que je viens de dire.
Reconnaissons justement.
Pas de juif, pas d'info.
Raphaël Glucksmann.
Exactement. Reconnaissons au jeune Glucksmann une certaine constance sur la question des Ouïghours, puisqu'il a beaucoup porté
celle seule
au Parlement européen.
C'est le seul.
Des questions à poser sur TikTok aussi. Tu vois, il y avait un reportage très amusant chez nos confrères de TF1 sur tous les petits drapeaux qui étaient agités près de l'Arc de Triomphe pour dire bienvenue au président chinois. Puis il y a le un journaliste de TF1.
Il y avait un drapeau chinois partout.
Un journaliste de TF1 qui s'approche près d'une dame en lui disant « Ah, pourquoi vous êtes déjà là ? Pourquoi c'est important la visite du président chinois ?» Elle commence à répondre. Et puis là, tu as un soi-disant touriste qui était juste derrière, qui vient, qui dit « Non, non, t'arrêtes de parler. » Donc, tu avais les agents chinois qui étaient là surveillés bien précisément.
Chez nous.
Ah bah oui. Il est venu lui dire « Non, non, vous arrêtez de parler. »
C'est magnifique.
Il y a 110 journalistes en Chine incarcérés.
Mais c'est tenu, Bruno.
L'ordre et la discipline, c'est ce qui manque à la France, monsieur.
Mais oui, en France.
La Chine va nous apprendre.
C'est sûr que lui, il va être surpris. Il va débarquer dans un pays où les lycéens manifestent pour Gaza, où personne travaille cette semaine parce qu'il y a des jours fériés. Et c'est sûr que ça doit le faire marrer.
Et donc lui, il est tranquille à faire ce qu'il veut là-bas. Bon,
allez,
super.
Vas-y Anaïs.
Les GG Soraya, la femme de Kenji Girac, sort du silence et elle nie tout chantage au suicide de la part du chanteur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout.
Ah bah, on s'en fout.
On s'en fout.
Allez, on enchaîne.
C'est la vie privée, laisse tomber. Ouais, okay. À un moment donné,
j'en peux plus d'entendre parler de Nice.
Elle n'a plus rien. Si elle est déjà
non, encore. Parce que vraiment, elle remet en cause tout ce que.
Non, mais ça peut plus.
Ah, je trouve ça totalement intéressant.
Bon, bah là, on peut passer à autre chose.
Totalement de la.
Non, mais surtout que on rentre dans la vie privée, à un moment donné, enfin, laissons-les tranquilles, en fait. Hein, c'est bon, à un moment donné. Surtout que je pense qu'ils ont d'autres trucs à régler, que voilà.
Parce que c'est le procureur qui avait tout détaillé. Hein.
Le procureur, moi je pense que le procureur.
C'est la même chose.
J'ai rien dit. Mais je pense que le procureur a dit la vérité. Après, c'est l'histoire de famille qui reste entre elles.
Non, mais parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que Kenji ne m'a jamais fait du chantage au suicide. Que les choses soient claires, cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence, quelle qu'elle soit de sa part. Je suis catégorique. D'ailleurs, elle dit que le procureur en a trop dit sur leur vie.
Non, mais oui, elle n'est pas le seul à le dire. Tout le monde était surpris de voir comment le procureur était rentrer dans les détails de leur vie privée.
Là, c'est elle qui parle, c'est pas nous, pardon.
Et nettoyer son âme comme Bérégova, c'est vrai que c'est pas facile.
Bon. OK.
On enchaîne.
Les GG, ça y est, le compte est bon pour France Télévisions. Des chiffres et des lettres, c'est terminé. Le jeu télévisé diffusé depuis 1965 s'arrêtera à la rentrée. Alors, est-ce qu'on s'en fout pas, Bruno ?
Ah non, on s'en fout pas du tout.
Charles, tu t'en fous ou pas ?
Non, on s'en fout pas.
Zora ? Non, on s'en fout pas.
Bon, c'est le programme le plus ancien du PAF, hein, après le jour du Seigneur. Ouais, la programmation, le week-end des chiffres et des lettres n'a pas été couronnée de succès, explique le directeur des antennes et des programmes de France Télé. Écoutez l'émotion de Patrice Lafontaine, le présentateur historique et toujours producteur de l'émission.
Je suis un peu ému, je vous le dis franchement, parce que c'est un peu de peine. Il y aura peu d'émissions, à mon avis, qui feront encore 50 ans. Donc c'est une bonne chose de sortir par la grande porte comme ça.
Voilà, au micro de BFM TV, Patrice Lafont. Pourquoi tu ne t'en fous pas, mon cher Bruno ?
Alors déjà, c'est une raison familiale. Ma grand-mère regardait ça tout le temps et je regardais avec elle. Donc moi, je faisais les jeux. Bah, moi, je faisais surtout les chiffres, hein, parce que là, j'étais à moitié à la rue à chaque fois. Et moi, je trouve ça dommage, je les regarde encore régulièrement. Je vais raconter ma vie. Que le week-end depuis un an ou deux. Mais moi, quand je fais mon vélo d'appartement, je fais une heure tous les jours, je mets ça. Et avant, c'était ça. Il y avait Slam. Bon, c'était pas ma cam, mais après, surtout, il y avait les questions pour un champion. Et moi, je trouve ça honteux que cette émission s'arrête, en fait.
Ouais, moi aussi.
Parce que même, ça marche plus.
Mais même, ouais, mais on s'en fout, mais ça fait, mais enfin.
Ils auraient pu faire des économies.
Même si tu fais.
Mais le week-end, c'est une.
J'étais là-dessus, mais franchement, même si ça fait 5 spectateurs, mais 5 spectateurs toujours qui seront moins cons que les 60 millions d'euros.
Non, mais c'est vrai que
c'est. Du service public.
Oui, non, mais moi, je trouve dommage qu'ils aient pas investi, justement, soit un autre horaire, soit un peu plus de promos, etc. Parce que vraiment, honnêtement, c'est une émission intéressante et qui intéresse les petits et les grands. Parce que même les petits à 3-4 ans, et moi je vois bien et je fais partie
avec
la génération de Bruno, et on joue en famille, on cuisine, on regarde en même temps, vraiment c'est un moment sympa et je trouve absolument incroyable que des trucs qui fonctionnent, qui sont pédagogiques, qui sont intéressants et amusants, on les supprime au profit de...
On a mis une très jolie photo de Laurent Romeshko là, qu'on
salue
d'ailleurs.
Je crois que c'est un Playmobil au début.
Ouais. Non mais en plus, il faut voir les choix qui sont faits, c'est-à-dire qu'on a peut-être gardé des trucs complètement crétins pour éliminer un truc intéressant. Et donc si le truc ça marche pas, et ben à la limite on trouve une stratégie pour que ça marche mieux, c'est tout.
Mais France Télé doit faire des économies par exemple.
Et ben on s'en fout, ils en foutent d'ailleurs.
C'est pas des économies, France Télé doit être privatisée.
Mais oui.
D'abord.
Donc les chiffres et lettres ne reviendront pas si
France Télévision c'est 5 milliards d'euros de budget annuel payé par l'État et 10 000 salariés. Excusez-moi, France Télévisions doit être privatisée. Mais je m'interroge sur la programmation de ce groupe, en fait. Je ne comprends pas. Je pensais que si on payait ce truc avec nos impôts, c'est quand même pour mettre des émissions d'intérêt général.
Ben oui.
Et à la place de ça, on a quoi ? On a des espèces de talk-shows gloussants, des jeux stupides, des espèces de sitcoms débiles. Je ne comprends pas ce qui est mis dans ce groupe. Je pense que ça doit doit être une chaîne, des chaînes consacrées à l'histoire,
il y en a,
à l'éducation, à l'éducation civique, à la culture, qu'il faut des vrais objectifs d'intérêt général. Je comprends pas cette espèce d'entre-deux dans lequel navigue en permanence la télévision.
Mais non, justement, ils peuvent avoir cette marque.
Mais non, c'est payé par nos impôts.
Soit le service public,
public
est différent. Et dans ce cas-là, il ne devrait pas avoir de pub, d'ailleurs. C'est ça le problème. C'est que c'est financé en partie par la pub. Donc, ils sont obligés de faire, effectivement, de la télé commerciale. Mais alors, regarde Arte. Arte, c'est du service public. T'as des émissions, des documentaires, des séries que tu n'aurais pas sur le service public. Sur France 2, tu as des émissions qui sont interchangeables. Les jeux pourraient être, les jeux de Nagui pourraient être sur TF1. Enfin, il n'y a pas, c'est là où tu te dis pourquoi tu payes une redevance. Bah maintenant on paye
mais c'est
directement l'impôt.
S'ils invoquent la raison budgétaire de la suppression des chiffres et des lettres, et pourquoi ce choix?
Pourquoi aller tous au festival de Cannes?
Je savais que t'allais en parler.
Il y a des grosses restrictions de budget. D'ailleurs, il y a tellement pas de budget qu'on va tous à Cannes pour le festival parce qu'ils veulent tous monter les marches, rencontrer des stars. C'est un truc qui doit être repris en main. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il faut une chaîne publique. Ça suffit largement qu'il soit en même temps la chaîne internationale, qu'on garde France 24, on en fait un truc d'histoire, de culture, et tout le reste, on attribue les fréquences. À la limite, on fait payer les groupes privés qui veulent les fréquences, on leur fait payer une petite... et même une importante redevance, mais je pense qu'on a des économies sérieuses à faire.
Moi, j'appelle le nouveau patron de BFM et d'RMC, là, Rodolphe Sadé, de racheter les droits des chiffres et lettres et de les mettre à l'antenne. À un moment donné, tu les mets à l'antenne.
Pas à la place des grandes gueules. Hein.
Pas des grandes gueules. Ou alors, en tout cas, ça
rendrait. À la place du Moscato, au moins, on apprendrait quelque chose, parce que quand t'écoutes le Moscato Show, les chiffres et les lettres, c'est pas trop
leur truc. C'est
leur truc quand t'es sur les temps des matchs. Là, les chiffres, ils connaissent 90 minutes ou 80 minutes.
Ça, les trois points.
Après, les lettres. Là,
t'apprendrais des nouveaux mots. Je pense qu'avec Vincent Éric Dimeco.
Oui, c'est ça,
les chiffres et des onomatopées.
Ça serait pas mal pour eux, ça leur ferait du bien. Mais c'est vrai que quand tu parles des chiffres et des lettres, on a tous des souvenirs de chiffres et lettres en famille. Bah, on se souvient, nous, on a la génération qui a commencé à l'époque.
Mon arrière-grand-mère, elle regardait Question pour un champion.
Max Favalelli.
Tous les soirs,
lui qui faisait les corrections, Max Favalelli. C'est dingue. Et puis tu faisais les matchs. Et quand toi, le gamin, de temps en temps, tu trouvais un meilleur mot que le père, la mère, ou le grand-père, ou la grand-mère, c'était le triomphe. Quasiment, t'étais porté au nu. Il est bon. Il sera bon dans la vie s'il a trouvé un mot au chiffre.
Regardez le résultat.
Merci Anaïs. Dans un instant, les ponts de mai. La France à l'arrêt. Où c'est bien cool de pouvoir en profiter. 32-16 pour venir en parler avec les GG de cette semaine incroyable.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.